quand je repris Chanel aujourd'hui, on fait tout un plat de ça. Quand j'ai repris Chanel, personne n'en voulait. On me disait, mais non, ne faites pas ça, ne touchez pas ça, c'est mort, etc. Bon, il se prouve que j'en ai quand même fait la plus grosse affaire de prêt-à-porter de luxe au monde. Et c'est devenu une espèce de chose sacrale. Mais non, c'était pas sacral, c'était ringard. On me dit, ne touchez pas. C'est pour ça que je l'ai touché, parce qu'on me dit, ne faites pas, j'ai envie de faire.
Sacral. Chanel, c'était ringard. Et depuis, Karl et son art, ça vaut des milliards. Dans le luxe, ce sont les Français qui sont rois. Chanel, donc, la griffe de coco, le chiffre d'affaires dépasse 8 milliards d'euros. LVMH, propriété de Bernard Arnault, eh bien le numéro 1 mondial du luxe a embauché 13 500 personnes en France l'an dernier, troisième recruteur du pays derrière McDo et la SNCF. Et puis il y a Kering, famille Pinault. Prenons entre autres sa marque Gucci. Près de 37% de croissance du chiffre d'affaires l'année dernière. Va bene, derrière des lunettes siglées, visiblement, on ne voit pas le ralentissement de l'économie, on ne voit pas la décélération de la Chine. Le luxe aujourd'hui, pour nous, ce sont des exportations pour plus de 51 milliards. On n'est pas loin des performances de l'aéronautique. Et même je dirais qu'il y a plus d'avenir pour un flacon de numéro 5 que pour un avion A380. Bref, le luxe est une industrie qui sable le champagne où le « made in France » fait la valeur ajoutée. Contraste cette semaine avec les mauvaises nouvelles d'une autre industrie, celle des usines, Ford, Ascoval, automobile, acier, il leur faudrait un Karl.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Samedi 23 février, l'économie comme on a envie, jusqu'à 10h. Bienvenue, nous vous attendions pour commencer. Toute l'équipe est là, Coy Nguyen, le réalisateur. Valentin Pérez, l'attaché de production, notre monsieur mode, notre monsieur luxe. Et Guillaume Roux, à la technique. Bien sûr, les débatteurs sont aussi autour de la table. Christian Chavagneux, d'Alternatives Économiques. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et bonjour Emmanuel Lechypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Christian, pour vous, le spécialiste de l'évasion fiscale, la grosse actu, ça
dire.
Oui, n'est-ce pas ? Non, il faut en parler de cette amende très très lourde. Un petit mot quand même.
Ah oui, oui, UBS qui prend 3,7 milliards d'euros d'amende, plus 800 millions de dédommagement à l'État, ça veut dire 4,5 milliards d'euros. Pourquoi ? Pour démarchage illégal et pour blanchiment de fraude fiscale. Honnêtement, faut rendre grâce à Antoine Payon, notre confrère.
Notre confrère de Lacroix, qui est venu à On n'arrête pas l'écho.
Et qui nous avait expliqué comment il avait mené son enquête. Tout était là, la justice lui a donné raison. Ce qui est aussi important, c'est que derrière, la personne morale d'UBS, des cadres,
banque suisse, donc,
la banque suisse, des cadres ont eu des peines de prison avec sursis. Et donc, non seulement la personne morale est condamnée, mais les individus aussi. Ça, c'est important dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale.
Voilà, avec Christian, à chaque fois, on marque un petit peu par des pierres blanches le chemin.
On avance,
la lutte,
on avance.
On avance. La grande actu pour nous, messieurs les débatteurs, cette semaine, ça a été le gouvernement qui reprend le dossier assurance chômage. C'était mercredi. Qu'est-ce que ça peut changer pour les demandeurs d'emploi, pour les entreprises, pour notre démocratie sociale ? On va y revenir dans 30 secondes. Ce samedi, c'est notre choix. Nous avons aussi choisi de faire le zoom sur le régime des auto-entrepreneurs. 10 ans d'existence, 1 200 000 personnes inscrites. On va dire que ce régime, il est bien installé. Mais sur fond d'ubérisation, tout le monde n'a pas envie de célébrer l'anniversaire. Vous entendrez le reportage d'Anna Elverzo. Et vers 9h45, un entretien avec l'homme qui a initié le régime en 2009. Il avait écrit un rapport qu'il avait remis au secrétaire d'État Novelli. On fera le bilan avec François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Et puis juste avant 10h, ça sera le moment de vos questions, auditeurs, auditrices, vos questions à Sandrine Foulon, ma bio-boulot. Bonjour Sandrine.
Et bonjour Alexandra.
Une question de Nadia donc.
Oui, sur Facebook, Twitter, la Ligue du LOL, jusqu'où un employeur peut-il sanctionner des salariés pour des propos tenus sur les réseaux sociaux ?
Ah, on en a déjà parlé, mais ça a évolué en effet. À tout à l'heure, Sandrine Foulon, tout de suite, clash sur l'assurance chômage.
20 février 2019.
Ces négociations sur l'assurance chômage, ça y est, c'est foutu ?
C'est foutu, comme c'est joliment dit.
Cette fois, c'est la rupture.
Patrons et syndicats n'ont pas réussi à s'entendre.
Sur la réforme de l'assurance chômage.
L'assurance chômage.
Les négociations sur l'assurance chômage ont échoué.
C'est le paritarisme qui a été touché.
Patrick Liebus.
C'est la reconnaissance de tous ceux qui...
Négociateurs pour l'UDP.
Pendant des années, ont essayé de trouver des solutions pour éviter que les personnes au chômage se trouvent encore plus en difficulté qu'ils étaient.
En gros, chacun va essayer de...
Denis Gravoux. Will.
De montrer que c'est la faute de l'autre.
Négociateur pour la CGT.
Enfin, très clairement, le patronat n'a jamais voulu lâcher de système de modulation des cotisations sur les contrats courts, sur les contrats précaires.
L'exécutif et les organisations de salariés voulaient instaurer un système de bonus-malus pour les entreprises.
Un malus aux entreprises qui abusent des CDD.
Les obliger à cotiser davantage à l'assurance chômage.
Les entreprises s'habituent trop,
Yves Verrier,
au fait que l'on fait payer par la collectivité la flexibilité, voire même le salaire maintenant des entreprises.
Secrétaire national FO.
Le système aujourd'hui fait que les entreprises abusent largement. Il faut savoir que 4 sur 5 contrats de moins d'un mois est une réembauche dans la même entreprise.
Vous savez, le document qui a été fourni la semaine dernière, il commençait en disant
Laurent Berger,
on est dans un monde de plus en plus concurrentiel.
Secrétaire général de la CFDT.
Où la compétition mondiale économique est de plus en plus forte. C'est pas faux, mais pour le médico-social, c'est faux. Pour les hôtels, cafés, restaurants, c'est faux. Pour le bâtiment, c'est faux. Pour tous ces secteurs qui utilisent et surabusent les contrats courts, c'est faux. Parce que il n'y a pas de risque de délocalisation que je sache. Le MEDEF nous a proposé de traiter les conséquences de cette précarité à un niveau extrêmement faible. Et là, les conditions n'étaient pas réunies pour un accord équilibré, dont acte.
Il appartiendra à la ministre du Travail et
Hubert Mongon
et au Premier ministre.
Négociateur pour le MEDEF.
C'est au président de la République de prendre ses responsabilités.
Aujourd'hui, notre système a dérapé.
Muriel Pénicaud.
Et aujourd'hui, 9 recrutements sur 10.
Ministre du Travail.
C'est un travail précaire, c'est-à-dire un CDD ou de l'intérim. On peut pas vivre comme ça. On peut pas se projeter, on peut pas avoir un logement. Et quand c'est toujours la même personne qui est recrutée dans le même employeur de façon précaire, on dit qu'on peut faire autrement et on fera autrement. On va étudier toutes les possibilités. Mais oui, on prendra par décret les mesures qu'il faut pour l'assurance chômage.
Des décrets, Muriel Pénicaud. Des décrets, c'est donc le gouvernement qui reprend le stylo que les partenaires sociaux ont posé mercredi, les syndicats et le patronat, qui négocient depuis 3 mois et demi, à la demande du gouvernement, une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Emmanuel Le Chypre, ça n'est pas eux qui vont écrire les nouveaux droits et devoirs des demandeurs d'emploi. En quoi c'est exceptionnel cette fois ?
Alors, c'est exceptionnel parce qu'on avait on va pas si souvent que ça, autant au clash que ce qu'on y va aujourd'hui. C'est vrai quand même que les négociations entre partenaires sociaux, elles étaient difficiles. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, là, avec une proposition qui était en rupture avec les propositions dans son programme présidentiel par rapport à tous les autres présidents de la République, qui était quand même d'étatiser, finalement, de changer la logique du régime d'indemnisation du chômage, puisqu'on était dans un régime d'assurance, c'est-à-dire que les salariés cotisent pour recevoir effectivement une indemnité chômage s'ils sont au chômage, ils voulaient passer, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, à un système où c'est l'État qui prend en charge l'indemnisation des chômeurs. Donc ça, c'était dans son programme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il nous a fait sortir d'une hypocrisie, Emmanuel Macron. C'est-à-dire l'hypocrisie qui consistait à faire croire que c'était uniquement les syndicats de patrons et les syndicats de salariés qui géraient l'assurance chômage. Parce qu'en fait, depuis longtemps, l'État, il intervenait déjà dans ses lettres de cadrage. Il intervenait déjà pour fixer la feuille de route. Pendant la négociation, l'État, il faisait un petit peu le tampon.
Il était dans les coulisses, oui.
Oui, voilà, entre des syndicats de patrons et des syndicats de salariés. Et puis après, c'est lui qui validait les accords. Là, ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron, il a clairement dit, on reprend la main. Et finalement, c'est plus une façon de sortir de l'hypocrisie du système. Là encore, sur des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais on sort plus d'une hypocrisie que vraiment de rentrer dans un nouveau monde.
Alors, ça c'est votre grille de lecture, c'est intéressant. Est-ce que vous voyez les choses, est-ce que c'est le déroulé
Moi, je partage assez l'analyse d'Emmanuel, en fait. Je crois que c'est le négociateur des faux qui a dit, en fait, on est dans un système de paritarisme d'État.
Exactement.
Et ça veut vraiment, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que le chômage, c'est réglé entre les partenaires sociaux, les représentants syndicaux, salariés, patronaux et l'État, en fait, qui a toujours été là.
Emmanuel depuis l'a dit. 58, parce que cette création ce système, c'est 1958.
Oui, c'est l'après-guerre, tout à fait. Et Emmanuel l'a bien dit, dans les négociations, il y a la lettre de cadrage, c'est l'État qui la donne. Les résultats attendus, ils étaient énoncés avant. Vous devrez trouver quelque chose contre les contrats courts, vous allez me faire entre 1 milliard et 1 milliard et demi d'économies tous les ans. Donc, les résultats étaient déjà attendus, on n'a pas dit aux partenaires sociaux. Comment vous pensez améliorer la rémunération des chômeurs ou la façon de le financer? Elle a dit c'est comme ça, voilà le résultat, et débrouillez-vous pour arriver à ce résultat. La dette de l'UDEDIC, elle est garantie par l'État. Une fois que les accords sont trouvés entre les partenaires sociaux, c'est l'État qui valide. Déjà en 1979, l'État était intervenu. Déjà en 1982, quand Yvon Gattaz, le père de Pierre Gattaz, avait claqué la porte, parce que ce qu'on appelait pas le MEDEF, mais le CNPF à l'époque, n'arrivait pas avec des propositions suffisantes, et bien Pierre Bérégovoy avait pris des mesures par décret. Donc vous voyez, On n'est pas dans l'exception totale historique.
Parce que là, ce qu'a dit Emmanuel Macron cette semaine, qui était quand même un peu gonflé, quand il a dit, bah regardez, les partenaires sociaux, ils sont pas capables de s'entendre, donc résultat, ils se défaussent et c'est à l'État qu'on demande de reprendre la main. La réalité, c'est que dans la lettre de cadrage, il y avait les ingrédients de l'impossibilité de trouver un accord.
Alors
certains
partenaires sociaux ont dit, non, c'était un piège qui nous était tendu, on ne pouvait pas y arriver, c'était écrit dès le début.
Il y avait deux éléments, de toute façon. Il y avait deux chiffons rouges dans la lettre d'Emmanuel Macron, enfin qui était un, il voulait déjà un système de bonus-malus dont les patrons ne veulent absolument pas. Donc ça, c'était le premier chiffon rouge. Et le deuxième chiffon rouge côté syndicat de salariés, c'était de dire, d'une façon ou d'une autre, il va falloir réduire l'indemnisation du chômage. Et ça, pour les syndicats, c'est inacceptable. Donc vraiment, il y avait quand même une difficulté supplémentaire cette fois-ci à réconcilier les deux propositions.
Sauf que sur les contrats courts, tout le monde voulait avancer. Les gens qui sont en contrat court, les syndicats de salariés, l'État, et il y a qu'un acteur qui a bloqué en fait la négociation. C'est les représentants syndicaux patronaux. Et en tête, le MEDEF. Bah, c'est pas que le paritarisme est mort. C'est qu'il y a d'un côté le président de la République qui, depuis le début, qu'il est à l'Élysée, nous dit les syndicats, rien à faire, j'avance tout seul. Pour une fois, qu'il nous disait, essayez quand même pour ma réforme de mettre d'accord tous les syndicats.
Il avait changé de philosophie. Emmanuel, vous dites que c'était dans le programme.
Dans le programme, on passait d'un système où l'indemnisation du chômage n'était plus financée par des cotisations chômage, mais par le système par un impôt. Donc on changeait bien de logique.
Et d'ailleurs, il l'a fait en partie, puisqu'il a supprimé les cotisations sociales, et il l'a remplacé par la CSG, bon, du côté salarié. En tout cas, il ne reste plus que les cotisations sociales patronales. Et moi, j'ai l'impression que le MEDEF est plutôt content. Si on va au clash et que l'État récupère tout, peut-être qu'il va finir par supprimer les cotisations sociales patronales en disant « Maintenant, tout ça est financé par l'impôt et vous, les entreprises, vous échappez à ça. » Et le MEDEF est content parce qu'ils arrêtent de négocier avec les syndicats de salariés et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du lobbying direct à l'Élysée. Sur ce problème des contrats courts sur lequel on peut revenir parce que Emmanuel
oui, dit, oui, il faut,
est-ce
il faut
que je peux
revenir.
Juste affiner l'analyse de Christian oui. Parce que le vrai problème, c'est pas le MEDEF, c'est pas les gens qu'on négociait directement, c'est que le MEDEF, il a un vrai problème, c'est avec ses branches, c'est-à-dire avec chaque profession et dont il n'arrive pas si vous voulez à obtenir les négociations qui étaient prévues, notamment sur cette affaire de contrat de cours, où ça devait se décider au niveau des branches, etc. Et là, on voit bien qu'il y a beaucoup de branches qui traînent les pieds. Et le MEDEF...
Ça fait deux ans qu'il négocie.
Le MEDEF parisien, entre guillemets, le MEDEF parisien est impuissant par rapport à ça. Et donc, finalement, je suis assez d'accord avec Christian. On a dit qu'il y avait des positions irréconciliables au début, sauf que dans un non-accord, chacun peut aussi y trouver son compte, puisque les syndicats de salariés vont sans doute obtenir le bonus-malus sur les contrats courts que eux souhaitent, et que le patronat va peut-être obtenir aussi le système que souhaite finalement Geoffroy Roux de Bézieux, qui était un peu de dire un système moins généreux dans lequel il y a une base d'indemnisation pour tout le monde, avec après éventuellement un complément financé individuellement.
Je pense qu'il faut revenir vraiment sur la proposition bonus-malus.
Allons-y. Des contrats courts, y compris les CDD de quelques heures, un jour, explosion totale. Donc on revient, ça a été le point de blocage.
Et puis ça a été le point de départ de la négociation. Le bonus-malus, pourquoi ? Les contrats normaux, les CDI, etc., c'est pour l'UNEDIC à peu près 10 milliards d'euros d'excédent chaque année. Les contrats courts, les CDD, les CDD d'usage, l'intérim, tout ça, ça fait perdre à peu près 9 milliards. Ça, c'est un déficit de 9 milliards. Donc là, il fallait, si vraiment vous voulez maîtriser les finances de l'UNEDIC, il faut réduire ce qui coûte. Et ce qui coûte, c'est les contrats courts. Ça concerne pour... Alors, l'INSEE vient juste de nous donner une étude. Les contrats courts pour l'INSEE, c'est moins de 3 mois. Hein, donc, ça va que jusque-là. 1,2 million de salariés, 4,5% de l'emploi en général, mais ça concerne quasiment un quart des ouvriers non qualifiés, 15% des moins de 25 ans. On voit que c'est une population assez ciblée. Il y avait plein de propositions sur la table. Alors, la CGT, bien sûr, qui dit qu'un malus, c'est tout. Bon, mais les propositions de...
Alors, il faut expliquer ce que c'est un malus.
Un malus, c'est dès que vous avez un contrat court, les cotisations sociales que paye l'employé sont plus fortes.
Donc, l'employeur.
L'employeur, pardon.
Le patron. En gros, on dit, si vous abusez des contrats courts, plus ils sont courts, en plus, on augmente vos cotisations.
moduler les cotisations sociales. Non,
pour la CGT,
de
il y a, oui, oui, et pour la CGT, il y avait qu'un malus, c'est-à-dire dès que vous avez du contrat court, vous payez en plus des cotisations. Pour FO, il y avait le taux pivot par secteur, parce qu'on nous dit oui, mais les secteurs c'est différent, il y en a qui recourent plus au contrat court. D'accord, on prend par secteur un taux qu'on négocie entre partenaires sociaux. On dit voilà, le taux normal d'utilisation des contrats courts, c'est ça. Vous êtes au-dessus, bah, vous payez plus de cotisations. Vous êtes en dessous, vous payez moins avec des plafonds et des planchers à négocier encore. La CFDT, c'était, je rappelle quand même, le premier syndicat français dans le privé et dans le public, 600 000 adhérents, c'est plus que les adhérents de La République En Marche, donc ça compte quand même, des cotisations dégressives en fonction de la durée du contrat. Le premier mois, vous payez beaucoup, le deuxième mois, vous payez un peu moins, le troisième mois, etc. Après, pendant quatre mois, vous payez de moins en moins. C'est dégressif au fur et à mesure.
Et le patronat, final, Christian ?
Le patronat, rien du tout.
Si, il y avait un fonds.
Non, il y avait, on va indemniser.
La dernière proposition.
La dernière proposition, c'est on garde toute la précarité, mais on va vous indemniser un petit peu pour essayer de compenser la précarité, mais on ne change rien. Le FO a demandé à l'UNEDIC de dire notre truc de taux pivot, là, qu'est-ce que ça donnerait si on le mettait en place ? 82% des entreprises sont gagnantes. Quand Emmanuel dit tout à l'heure, les patrons n'en voulaient pas. Certains patrons n'en voulaient pas. 82% des entreprises seraient gagnantes. Juste 18% de perdantes. Et on sait, c'est l'hôtellerie-restauration, c'est le BTP, c'est les soins à domicile. Il y a vraiment des secteurs qui ne vivent que par la précarité. Et là, il faut arrêter. Et je pense que la négociation,
Emmanuel,
elle doit continuer.
Vous pensez, elle va, alors justement,
elle
vous pensez
continuer.
Que ce bonus-malus, vous êtes persuadé, Emmanuel Le Chip, que le gouvernement ne peut pas faire autrement que de mettre en place ce qui était inscrit dans le programme d'Emmanuel Macron.
La question, encore une fois, il y a la philosophie et puis il y a la façon dont vous le mettez en place.
On vient de voir avec Christian qu'il y a mille façons.
Il y a effectivement des façons, et y compris pour les secteurs qui y recourent beaucoup, parce qu'on peut comprendre quand même que vous avez quand même des secteurs, des types d'activités qui nécessitent d'avoir la possibilité d'embaucher des gens sur des durées très courtes, etc. Donc ça, c'est toujours l'argument des entreprises, hein, de dire ça.
Mais les syndicats l'ont compris, ça, il me semble.
La réalité, c'est que quand vous regardez dans chaque secteur, chaque entreprise, elles ont quand même toutes des comportements différents.
Exactement.
Donc voilà. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même une partie de la gestion des effectifs qui est relative à la philosophie de l'entreprise. Donc on doit pouvoir trouver un système. Il y a quand même, il faut tenir compte de ce qui se passe à l'étranger. Le système existe aux États-Unis. Il existe de façon plutôt intelligente, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils vont même, donc ils regardent. Alors attention, la proposition du gouvernement, ce serait de prendre en compte pas seulement les CDD, mais l'ensemble de la politique de licenciement, etc. Parce que ça compte aussi, globalement. Et donc, de dire, qu'est-ce qui se passe? Et aux États-Unis, donc c'est les cotisations employeurs, elles sont adaptées en fonction de la façon dont vous gérez vos effectifs, et ils ont même un degré supplémentaire qui est très intéressant, parce que honnêtement, vous licenciez un cadre à la Défense qui va retrouver du boulot dans deux mois, ça n'a pas le même coût pour la société que de licencier quelqu'un qui va se retrouver au chômage pendant très longtemps. Et donc, ils regardent même la durée du chômage des gens que vous avez licenciés précédemment pour adapter vos cotisations. Donc, il y a plein de systèmes intelligents qui sont possibles. Là, encore une fois, le diable va être dans les détails et dans l'ingénierie, mais globalement, c'est philosophiquement un problème pas mal. Je termine avec le résultat des études.
Oui.
Ça crée globalement, ça dissuade les entreprises d'embaucher, mais ça réduit aussi les licenciements. Et ça réduit plus les licenciements que ça ne dissuade d'embaucher. Ça, c'est des études universitaires américaines. Et résultat, l'impact final sur le marché du travail est plutôt globalement positif quand on met en place ce genre
de Emmanuel négocier avec les syndicats.
Donc là, Emmanuel Le Chip, vous venez de démonter l'argument des entreprises. Là, voilà.
Non, mais encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises qui ont légitimement besoin de ce genre de contrat. Mais là, il y a quand même un jeu politique à l'intérieur du MEDEF qui prendrait, il y a les kremlinologues, mais il devrait y avoir les MEDEFologues aussi pour nous expliquer comment ça fonctionne entre les contradictions, les rivalités entre les grosses boîtes, les petites,
attendez,
les services, l'industrie.
On passe au droit des chômeurs.
C'est très compliqué.
Non, parce que on a encore deux minutes. Moi, qu'est-ce qui va attendre maintenant Christian Chavagneux? C'est la grande question.
C'est ça le vrai problème.
Dans la feuille de route, il y avait donc, vous devez faire, près de 4 milliards d'euros d'économies
sur 3 ans,
oui. Et donc, ça veut dire réduction des droits pour les demandeurs d'emploi.
C'est très clair. Le gouvernement, c'est ça le problème. C'est que quand on lâche la négociation avec les partenaires sociaux, l'État va remettre la main. Et la seule chose qui intéresse l'État, c'est de réduire les dépenses. Donc, ils vont taper sur quoi? Un retour de la dégressivité. On a connu la dégressivité des allocations chômage. Hein. Plus vous restez, plus ça va baisser entre 86 et 2001. Ça fait quoi? Ça fait moins de dépenses. Hein. Si vous donnez moins d'allocs aux chômeurs, ça fait moins de dépenses. Sauf que ça accélère pas le retour à l'emploi. poids. Parce que l'idée derrière la dégressivité des allocations chômage, c'est que vous restez peinard dans votre canapé et puis vous attendez le dernier mois avant de retrouver du boulot. Pas du tout. Le fait, quand on a eu la dégressivité, ça n'accélérait pas le retour à l'emploi. Soit les gens acceptaient des emplois moins qualifiés et prenaient le job de gens moins qualifiés qui auraient pu trouver du travail, soit ils basculaient dans la pauvreté parce qu'ils n'avaient plus d'allocations.
Donc ça baisse pas non plus le chômage.
Et vous rendez encore plus difficile l'accès au marché du travail des moins qualifiés qui dont les places sont prises par les plus qualifiés.
Vous avez la deuxième chose, c'est le plafond pour les cadres. Hein, le montant maximal des allocations à plus de 7000 euros par mois. Mais c'est 0,02% des allocataires. Et les cadres, ils sont moins longtemps au chômage et ils cotisent plus. Ils sont contributeurs nets. Donc, il faut pas taper sur les cadres. C'est des gens qui rapportent plus d'argent à l'UNEDIC que ce qu'ils n'en rapportent, même si vous avez 400-500 personnes qui vont gagner 7000 euros. Enfin, ce que veut le gouvernement, ce que devrait faire le gouvernement, le vrai objectif, c'est faciliter le retour à l'emploi des plus éloignés du marché du travail. En faisant quoi? D'un côté, il faut les employer. De l'autre côté, il faut une politique d'accompagnement. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle les contrats aidés, ce que le gouvernement supprime.
Il a son plan compétences quand même, Christian, le gouvernement.
Mais ce qui est très intéressant...
Emmanuel, il nous reste... Allez-y.
Ouais, ce qui est très intéressant, au-delà de cette discussion sur l'assurance chômage, c'est que cette semaine, on a quand même eu trois choses. On a eu, lundi, les éléments sur la réforme des retraites. Et on voit quoi? On voit que l'obsession, c'est l'équilibre des comptes. On a eu l'indemnisation du chômage. On a eu la fameuse réforme qu'on nous promet sur les arrêts maladie,
le
sur
rapport,
le jour de
le
carence,
rapport,
etc.
Oui,
et ce qu'on voit finalement, c'est qu'on est certes dans un pays qui a peut-être oublié les règles de la bonne gestion dans plein de sujets sur beaucoup de choses. Mais on voit chez Emmanuel Macron cette obsession de l'approche comptable qui, certes, est une condition nécessaire mais pas suffisante pour régler les problèmes. Alors sur les retraites, on voit bien que oui, c'est sûr que de toute façon, il faudra travailler plus longtemps, quoi qu'il arrive. Sur l'indemnisation du chômage, on voit par exemple que l'approche comptable, elle est pas bonne. Rappelons encore une fois, on l'a déjà fait ici, que quand vous prenez les cotisations et que vous prenez les indemnités, eh bien le régime, il est excédentaire. Voilà. Et que donc le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est le retour à l'emploi et que l'indemnisation du chômage, ça a jamais joué. Et sur les fameux arrêts maladie, vous voyez bien que les arrêts courts de 8 jours, etc., qui sont les plus fréquents et de loin,
ça sert aussi à éviter les arrêts longs.
Ça coûte pas très cher résout pas tous les problèmes de santé au travail, etc. Donc oui, l'équilibre comptable, c'est bien, mais c'est pas tout. Soubia, c'est pas tout. Ça résout pas tous les problèmes.
Très bien, très bonne conclusion, si je peux me permettre. On reste là-dessus, Christian Emmanuel, parce que je ne sais pas si vous entendez là le tic-tac, le compte à rebours, vous l'entendez? Il reste moins d'une semaine à Pékin et à Washington pour se mettre d'accord. Allez, on file aux États-Unis pour savoir si la guerre commerciale aura lieu.
Welcome to a special edition of The Economy and the Future for American Prosperity.
Bonjour Grégory Phillips, vous êtes le correspondant permanent de France Inter aux États-Unis. La date butoir, c'est donc vendredi prochain. S'il n'y a pas d'accord, Washington menace de taxer 200 milliards de dollars de produits chinois importés. Il ferait monter les droits de douane de 10 à 25%. Mais ça, Grégory, ça serait la guerre.
Bonjour Alexandra. Alors vous savez, on est dans un bras de fer qui dure depuis des mois maintenant, avec des moments de tension extrêmement forts, on l'a vu, entre Washington et Pékin. Et puis parfois, comme hier après-midi, des signes d'apaisement. On a vu dans le bureau ovale Donald Trump tout sourire avec le principal négociateur chinois, le vice-premier ministre Liu He, et les deux hommes ont paru assez optimistes. Le président américain a évoqué de très bonnes discussions. L'envoyé spécial chinois a répondu en disant qu'il ferait tout pour arriver à une résolution de ce conflit commercial. Donc, optimisme affiché, mais malgré cela, les discussions, les négociations vont continuer tout le week-end à Washington. Du côté de la Maison-Blanche, on nous dit que la date butoir du 1er mars pourrait être repoussée un petit peu, peut-être de quelques jours. Et puis Donald Trump explique aussi qu'il a invité son homologue chinois Xi Jinping le mois prochain dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride et que c'est là que tout se décidera. Donc vous voyez, on a l'impression que tout est fait pour faire redescendre un petit peu la pression, mais faut pas croire non plus qu'on va faire disparaître comme ça en quelques jours l'énorme déficit commercial qu'il y a entre les deux pays. On parle quand même de 330 milliards de dollars. C'est pas non plus demain qu'on va régler complètement le problème délicat des droits de propriété intellectuelle. Mais bon, pour répondre à votre question, disons qu'ici à Washington, les négociateurs des deux camps semblent assez bien disposés. Attention, comme dans toute négociation, ça peut capoter au dernier moment. Et donc, c'est pour ça qu'on va surveiller très attentivement ce qui se passe aujourd'hui et demain dans le bâtiment Eisenhower, juste à côté de la Maison Blanche.
Merci à vous Grégory Phillips depuis Washington et merci aux débatteurs Emmanuel Le Chypre et Christian Chavagneux. Tout de suite, zoom sur le régime des auto-entrepreneurs, un régime fiscal social simplifié qui a 10 ans. Mais fait-il du bien à l'économie, à la société? C'est la question et c'est le reportage d'Annaëlle Verzo.
Sixième étage, allez. C'est mieux en ascenseur.
C'est mieux en ascenseur.
Ok, ça passe. Oups. Pratique, vous habitez juste à côté de...
Ça, c'est bien.
Du salon de coiffure.
C'est bien.
Vous bossez beaucoup?
Oui.
Tous les jours? Non, pas le dimanche, mais...
Tous les jours.
Le dimanche aussi?
D'où un des intérêts d'avoir des coiffeurs auto-entrepreneurs. Parce que je peux pas avoir un salarié le dimanche. On n'a pas le droit. Mais un auto-entrepreneur...
Là, vous avez le droit.
C'est bon.
Alors David, on est chez vous, on est juste au-dessus de votre salon de coiffure à Paris dans le 18e arrondissement. Et alors, vous louez un fauteuil ou des fauteuils à des auto-entrepreneurs, des coiffeurs qui sont auto-entrepreneurs.
Voilà, ça permet une plus grande largesse à tout le monde. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de coiffeurs qui voulaient plus être salariés, qu'on avait marre d'avoir un patron au-dessus d'eux et qui voulaient avoir une forme de liberté. Et ça leur permet d'osciller d'un salon à un autre et de se sentir libre.
Vous en avez combien qui louent des fauteuils comme ça?
Là, pour l'instant, j'ai qu'une coiffeuse, mais à un moment, j'en ai eu deux. Le salon est petit, hein, donc on ne peut pas être 15 dedans.
Alors du coup, ils viennent chez vous une fois par semaine ou...
Ça dépend de la demande. Parfois, ce sont leurs clients qui appellent au salon pour avoir des rendez-vous. Parfois, ce sont les clients du salon qui se sont fidélisés à ces coiffeurs-là.
Parce que du coup, c'est pas régulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tel auto-entrepreneur qui vient tel jour, un autre tel autre jour.
Non, parce que sinon, ça serait du salariat déguisé. C'est la régularité qui amènerait à ce que je sois obligé de les salarier. Ça fonctionne parce que c'est pas régulier.
D'accord. Il vous loue combien, le fauteuil?
Notre accord, c'est un pourcentage sur ce qu'ils font. Un coiffeur qui va travailler toute une journée, aux alentours de 10 heures la journée, va gagner entre 250 et 350 euros par jour. Hors les charges que lui aura à payer dues à son statut.
Oui, parce que du coup, la particularité de l'auto-entrepreneur, c'est qu'il a ses propres charges à mettre de côté.
Ouais.
Et du coup, vous prenez du coup un pourcentage
sur ses prestations.
Ouais. Et c'est quel pourcentage?
C'est... Je vous le dirai pas, mais je pense qu'ils gagnent bien leur vie en travaillant chez moi.
Donc au salon, votre coiffeur n'est peut-être pas un salarié, mais juste un auto-entrepreneur qui loue un fauteuil. Et c'est une équation gagnant-gagnant, nous dit David, ce patron coiffeur. Le régime a donc 10 ans, près d'1 200 000 inscrits. On peut dire qu'il y avait une attente, ce qui n'empêche pas, aujourd'hui encore, les controverses liées aux dérives, aux abus. Tenez, écoutez aussi le témoignage de Mathilde au micro d'Annaëlle Verzo.
Alors on se trouve maintenant à Paris avec Mathilde. Mathilde, vous avez quel âge ?
J'ai 24 ans, 25 en juillet.
Vous avez travaillé dans un magasin de vêtements qui vous a fait une proposition assez particulière. C'était quoi exactement ?
Oui, alors en fait, c'était par un copain de copain qui avait besoin de partir un mois en vacances et qui du coup cherchait quelqu'un pour le remplacer à la boutique. Donc on m'a proposé d'être vendeuse juste un mois. Mais la condition pour être payée, c'était de déclarer un statut moi d'auto-entrepreneur pour pouvoir être payé comme si en fait la boutique de fringues faisait appel à ma boîte en tant que service de vente. Mais en réalité, c'était un travail de vendeuse, tout ce qui est plus classique.
Toutes les personnes qui travaillent pour lui sont auto-entrepreneurs?
Il fonctionne uniquement comme ça. Donc il avait à l'époque une ou deux personnes qui bossaient là quasiment à l'année. Et toutes les personnes qui l'embauchaient en extra, entre guillemets, il leur demandait en effet d'avoir des statuts d'auto-entrepreneur.
Donc, voilà un exemple d'abus. Mais il y a aussi ceux qui choisissent en toute conscience le statut d'auto-entrepreneur, comme Céline, qui fabrique et vend des bijoux depuis 5 ans. Et Céline, donc vous êtes auto-entrepreneur?
Tout à fait, depuis 2013.
Vous gagnez combien, du coup, à peu près par mois?
Entre 1002 et 1004, je dirais. Avant, j'étais fonctionnaire, hein, donc je gagnais plus. 2100, je crois, dans les 2000 euros. Donc c'est sûr que ça fait une différence. Et après, je pourrais gagner plus. Il faudrait que je travaille encore plus.
Est-ce que vous travaillez déjà beaucoup?
Pas mal. C'est très difficile quand on est auto-entrepreneur, en tout cas dans ce que je fais, de quantifier. Vous voyez, là, en vous attendant, j'ai commencé à regarder les marchés que j'allais faire, à va falloir que j'aille voir une boutique qui m'a demandé quelque chose pour une cliente. Enfin, tout un tas de choses. Quand vous passez une journée entière sur les réseaux sociaux à chercher des nouveaux marchés, des nouvelles boutiques, à postuler, en fait, comment quantifier tout ça ?
Et bon, vous êtes jeune hein, encore, je ne sais pas quel âge vous avez.
Non, plus trop, hein, 39 ans.
Non, vous êtes jeune, non, parce que je vais vous parler de votre retraite.
Ah voilà, bah oui, ça c'est le gros problème des auto-entrepreneurs.
Ouais, comment vous faites, vous cotisez
En fait, j'ai mis de côté depuis 10 ans et j'ai trouvé, par chance, ça a été le parcours du combattant, une banque qui a accepté de me prêter ce qu'il fallait pour pouvoir acheter ce petit 30 mètres carrés à Romainville. Et ça, c'est ma retraite pour moi, vous voyez. Quand on est auto-entrepreneur... Ben, on cotise très peu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une cote mal taillée. C'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que, par exemple, on n'est pas soumis à la TVA. On a l'URSSAF en moins, donc genre 2400 euros en moins à sortir par an, ce qui n'est pas rien pour des petites rentrées comme les nôtres. Mais par contre, voilà, derrière, du coup, j'ai en gros 30 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et pour les impôts, je ne gagne que 28% de ces 30 000 euros. Donc mon salaire, qui va être, j'en suis quasiment sûre, pris en compte pour la retraite, ça va être en gros 800 euros maximum. Quoi,
700, par mois. 800,
par mois. Et donc, vous faites la moitié de ça.
Ça vous ferait 350 euros
voilà, c'est ça.
De retraite.
Et ben, ça va être
par
ça.
Mois.
Voilà, c'est ça. Donc je me dis, heureusement que j'ai derrière 10 ans de fonction publique, ça me ferait un petit quelque chose en plus, j'espère. Et puis ben, en gros, je serais au minima vieillesse, quoi. Enfin, clairement.
Selon une enquête Opinionway, le manque de couverture sociale est la première préoccupation des travailleurs indépendants en Europe. Le président de la Fédération des auto-entrepreneurs, Grégoire Leclerc, un militant du statut, en a néanmoins conscience.
Parmi toutes mes activités salariées, j'ai une activité d'auto-entreprise et je suis donc consultant en organisation digitale et en transformation digitale. Je trouve que quand on est cadre en entreprise, c'est aussi parfois une bouffée d'oxygène.
Et ça fait un complément de salaire ?
Ah, ça fait un complément de salaire non négligeable.
Ça vous rapporte combien en plus ?
À peu près 1200 euros par mois supplémentaires, ce qui est non négligeable, hein, clairement. Après...
C'est un sur trois, un auto-entrepreneur sur trois qui fait comme vous, c'est-à-dire activité salariale et puis en complément, on va être auto-entrepreneur.
Si on fait des grandes masses, il y en a un sur trois qui cumule, il y en a un sur trois qui vit exclusivement et il y en a un sur trois qui est dans une situation plutôt étudiant, retraité et qui va être lui aussi dans une logique un peu de recherche d'une activité économique en plus des allocations plutôt du coup de type retraite ou de type purement allocation sociale, donc RSA, APL, etc.
Il y a une activité qui est en train de se développer là à Paris, c'est les rechargeurs de trottinettes.
Oui. On n'appelle pas ça des chargeurs, on appelle ça des jouisseurs.
Des jouisseurs.
Oui. Ça vient du verbe anglais hein, qui veut dire charger. L'auto-entrepreneur est rémunéré en fonction du nombre de trottinettes rechargées.
Alors c'est payé combien ? Pour combien de trottinettes rechargées ?
En moyenne, c'est payé entre 3 et 5 euros la trottinette.
Il faut en recharger pas mal pour faire...
Alors c'est évident qu'on n'est pas en train de créer le futur du travail en mettant en batterie des chargeurs de trottinettes sur des plateformes. Maintenant, c'est intéressant de voir la tournure que prend le régime de l'auto-entreprise. Vous voyez, il y a 10 ans, le régime, c'était le premier pied à l'emploi et le premier pied à l'activité entrepreneuriale. Il y a 5 ans, c'était commencer à aider les petites entreprises à alléger leurs formalités de compta et de gestion qui sont très lourdes dans les régimes autres que l'auto-entreprise et donc de s'inspirer de ce régime pour simplifier la création d'entreprise de manière plus générale. Et puis maintenant, on voit que les plateformes ont un peu pris le dessus et qu'on est un peu sur un à côté un peu de l'auto-entrepreneur où on va demander à tout un chacun de devenir prestataire de service et d'être rémunéré pour ce faire via le régime de l'auto-entreprise, mais qui à l'origine n'a pas du tout été pensé pour ça. Voilà, il faut faire en sorte maintenant que cette population soit mieux protégée, soit bien couverte, et il y a des sujets de société qu'il faut traiter, en plus simplement des sujets économiques.
Dans une étude publiée en 2017, la CFDT estime que 3 à 5% des auto-entrepreneurs ne travaillent que pour un seul employeur. Entre 30 000 et 50 000 personnes seraient donc dans cette situation qui s'apparente à du salariat déguisé. La juriste Barbara Gomes a écrit une thèse sur ce sujet.
On suspecte que cette explosion de l'auto-entrepreneuriat concerne des personnes qui, en fait, sont de fait contraintes de recourir au statut de travailleur dit indépendant, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout dans une volonté d'être de véritables entrepreneurs.
Un salariat déguisé.
Notamment, effectivement, et je pense justement aux plateformes numériques de travail, telles que Uber, Deliveroo, etc., qui construisent justement leur activité autour d'un contournement détournement massif du droit du travail. On a une armée de travailleurs, notamment les coursiers, qui donc sont contraints, s'ils veulent exercer une activité, de passer par ce statut. Et c'est pas du tout quelque chose de voulu, c'est pas du tout quelque chose qui leur permettra de développer leur propre activité économique, d'avoir une vraie identité sur le marché avec des clients, etc. Non, non, ils sont complètement dans l'organisation, encadrés par cette organisation, contrôlés, sanctionnés par cette organisation-là. Donc effectivement, là, on est dans du salarié déguisé. C'est ce qu'a dit la Cour de cassation donc en novembre avec l'arrêt d'Equitizi qui a requalifié en travailleur salarié un coursier qui était lié à la plateforme de livraison de repas d'Equitizi. Il disait pourtant que le travailleur était juste un prestataire de service finalement.
Alors j'ai vu que des auto-entrepreneurs demandaient une protection sociale au niveau européen. Que c'est quelque chose qui serait valable.
En l'occurrence, la notion juridique de travailleur est très large dans le droit de l'Union européenne. Donc, effectivement, peut-être qu'un travail de compilation de ce qui existe déjà permettrait de rendre les choses plus claires. Mais je pense qu'il faudra du coup aussi décider de ce que c'est qu'un travailleur véritablement indépendant et qu'en fonction de cela, faire une frontière entre ce qui relève d'une protection minimale des travailleurs véritablement indépendants, qui ont des clients, qui prennent leurs propres décisions sur le déroulement de leur activité, et puis les travailleurs qui sont soumis au pouvoir d'une organisation et qui, dans ce cas-là, devraient être reconnus comme des travailleurs salariés.
10 ans d'existence pour les auto-entrepreneurs, heures et malheurs, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et le président de l'Union des auto-entrepreneurs est avec nous, François Hurel. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez initié il y a 10 ans ce statut auto-entrepreneur, on dit maintenant micro-entrepreneur. Combien de Français, on va d'abord faire la photo, combien de Français s'inscrivent par jour à ce statut et qui sont-ils?
Alors aujourd'hui, 1200 Français s'inscrivent tous les jours au régime. Ça a été dit dans le reportage, il se divise en gros en 3 catégories. Il y a ceux qui veulent exercer à titre exclusif, ceux qui exercent à titre alternatif parce que dans leur période d'activité professionnelle, eh ben, ils veulent devenir en fait indépendants. Et puis il y a ceux qui veulent le faire, j'ai envie de dire, de façon un peu plus simplifiée, c'est-à-dire qu'ils n'y consacrent pas beaucoup de temps, ils le cumulent avec autre chose.
Et de façon générale, ils en vivent, les auto-entrepreneurs, leur revenu est assez faible.
Toute la question.
En revenu moyen.
Toute la question, voilà, c'est le revenu moyen. Donc on va comparer des gens qui n'y consacrent que parfois que 10% de leur temps à des gens qui y consacrent 100% de leur temps. Nous savons en gros que ceux qui y consacrent 100% de leur temps avoisinent l'ancien plafond, c'est-à-dire en gros une trentaine de milliers d'euros par an.
C'est
ça a été dit dans votre reportage.
Oui.
Donc on est à peu près dans ce cliquet-là. Ceux qui n'y consacrent que 10% de leur temps sont des gens qui peuvent gagner beaucoup de sous parce que ce sont des consultants qui vendent très cher l'heure. Et puis il y a ceux qui font ça en complément de revenus le samedi parce qu'ils organisent un mariage, une soirée, ils font des photos. Enfin voilà, on a tous les métiers. L'explosion du travail indépendant, c'est en réalité le miroir de notre société de service. C'est pas plus que ça. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui tombés dans une société où le service est partout et on a envie de service partout, de la trottinette justement à plein d'autres choses. Et j'entends de votre reportage deux mots qui ont été répétés, mais plusieurs fois.
Allez-y.
Liberté. Liberté du travail. Alors, cette liberté, il ne faut pas non plus qu'elle soit abusive.
Alors justement, François Hurel, liberté, moi aussi, je l'ai entendu ce mot. Est-ce que vous savez combien font un choix délibéré, et ça c'est notre bijoutière Céline, et combien se voit contraint de prendre ce statut d'auto-entrepreneur, et ça c'est notre vendeuse Mathilde.
C'est excessivement difficile à dire, parce que le seul critère qui devrait être réel, c'est celui du nombre de demandes de requalification. Vous savez, la fameuse possibilité pour le juge de requalifier en contrat de travail un auto-entrepreneur qui travaille avec un entrepreneur.
On l'a vu.
Mais
hein,
finalement, il
n'y
en a
aussi.
Pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça et il y en a beaucoup dans les plateformes. La vraie question qui aujourd'hui se pose est là où j'ai envie de dire le nœud du problème. Il est européen et il est aussi français. C'est le fait que la question de la requalification, c'est pas le juge qui a envie de requalifier pour requalifier. Non, c'est le juge qui a envie de requalifier pour donner des droits sociaux à des gens qui n'en ont pas forcément beaucoup ou pas suffisamment.
Mais vous, François,
attaquons-nous à la vraie question, celle des droits sociaux.
Donc vous n'êtes pas pour une requalification en contrat de travail. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne solution quand il s'agit en effet d'une relation salariale qui a été déguisée?
Non, j'ai envie de dire, le régime de l'auto-entrepreneur ou le régime du travailleur indépendant n'est absolument pas là pour faire une turpitude au droit du travail. Il ne s'agit pas de faire un mauvais coup au droit du travail. Et donc ça, c'est tout à fait clair. En revanche, il s'agit aussi d'imaginer qu'on puisse aller de l'avant sur les fameux droits sociaux. Parce que si on n'y va jamais, on aura toujours des gens dont on va dire qu'ils sont pas très bien protégés et des gens dont on va dire qu'ils sont protégés. Voire même, il y a des esprits malins qui vous disent qu'ils sont surprotégés. Alors du coup, en réalité, il faut juste qu'on s'attaque au vrai sujet. C'est-à-dire, faisons converger les droits sociaux. Donnons des droits sociaux aux travailleurs indépendants et je pense qu'on aura moins de requalifications.
Mais vous qui avez initié le statut il y a 10 ans, qui l'avez voulu, qui l'avez porté, est-ce que quand vous voyez un livreur à vélo ou quand vous voyez un chargeur de trottinette, vous vous dites « Oh, c'est exactement ce que j'avais en tête, ça c'est un auto-entrepreneur, c'est l'ADN de l'entrepreneur ».
Non, pas du tout. Le problème, c'est que la question que vous me posez, si je reviens à ce que je disais, c'est le miroir de la société de service. Mais il y a 10 ans, nous n'étions pas dans une société de service au point où nous en sommes. Aujourd'hui, tout le monde veut du service. J'ai envie de dire, je m'intéressais à ça. Dans mon immeuble, je vois des livreurs qui arrivent maintenant à 6h du matin. Attendez, ils livrent. Ce sont des indépendants qui livrent entre 6 et 8 des particuliers qui veulent être livrés avant de partir bosser. Et puis c'est pareil, effectivement, le soir tard. Cette société de service a bouleversé totalement nos repères. Mais du coup, est-ce que c'est mal? La question qui se pose, c'est...
C'est la question que je vous pose, vous qui avez...
Vous... bien ou mal? La vraie question, il faut la poser comme ça. Alors maintenant, moi, des gens qui en fait... ils consacrent beaucoup de temps, doivent pouvoir en vivre. Les exclusifs doivent pouvoir en vivre et doivent avoir une protection sociale digne de ce nom.
Alors,
lorsque j'entends parler de retraite, je rencontrais cette semaine encore Jean-Paul Delevoye qui travaille à ce sujet-là.
Le haut-commissaire à la réforme des retraites.
Et on s'attaquait à cette question en disant il faut transformer la retraite et en faire des points. Parce que justement, ceux qui en travaillent beaucoup, ceux qui travaillent moins, ben chacun doit avoir en tête le niveau d'activité qu'il faut pour avoir le nombre de points équivalent pour obtenir une retraite suffisante.
Qui doit payer? Vous dites il leur faut une retraite, il leur faut plus de protection sociale, il leur faut des droits. Qui doit payer? Est-ce que ce sont les auto-entrepreneurs ou est-ce que ce sont, par exemple, dans le cas des plateformes,
les clients,
les donneurs d'ordre?
Les clients. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas durablement avoir effectivement une situation où vous dites à des gens, ils sont payés à 7,50 € de l'heure ou bien 8 €, et alors qu'on sait pertinemment que, même en y consacrant énormément de temps, ils pourront pas acquitter de cotisations sociales suffisantes. Il faut donc que nous nous attaquions à la question de la protection sociale, de voir que, dans le cadre de cette protection sociale, il faut que tous les minima où toutes les protections soient le plus possible mises en œuvre, et il faut donner une chance pour que ces travailleurs indépendants puissent s'acquitter de ces protections.
Mais alors les clients, qui sont les clients? Qui doit payer la protection sociale du livreur
Le client qui se fait livrer. Le client qui en fait utilise Uber, pardonnez-moi cette petite pub. Le client qui utilisera le service, c'est lui qui doit finalement acquitter.
Ça n'est pas la plateforme, ça n'est pas Uber,
Pourquoi je dis que ça n'est certainement pas ça qu'il faut? C'est parce que je crois que si nous tendons vers cette démarche-là, on va créer un troisième statut, une troisième voie, où on aura des gens qui seront des socialement dépendants de cette plateforme, qui paiera pour eux, et des économiquement dépendants parce qu'ils seront dépendants de cette plateforme pour travailler. C'est la pire des situations. Ça, c'est la machine à faire des travailleurs pauvres. Là, je m'insurge totalement contre ça. Moi, pour moi, nous sommes, vous, moi, tout le monde, clients de cette société de service. Il faut qu'on assume de payer pour cette société de service.
Et quel est votre regard sur ces coiffeurs? Les artisans ont beaucoup tempêté contre les auto-entrepreneurs. Concurrence déloyale à cause de la TVA, pas payée dans la même proportion. Ces coiffeurs là qui font tourner leur salon, on l'a entendu dans le reportage, en recrutant des coiffeurs auto-entrepreneurs.
Non, ils offrent la possibilité à des gens de travailler. Et ces gens qui travaillent dans leur salon de coiffure...
Ils n'embauchent pas de salariés, du coup.
Oui, mais ils n'embauchent pas de salariés parce que peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire et pas suffisamment de clients. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais on n'interdira pas ça. On n'interdira pas les nouvelles formes en fait, de travail. Ce qu'il faut, c'est que chacun puisse en vivre décemment.
François Hurel, il y a une proposition dans la loi mobilité qui va arriver en mars et qui voudrait donner la possibilité aux plateformes de construire des chartes pour donner des droits à ces auto-entrepreneurs qui travaillent pour elles, par exemple des droits à la formation.
Alors, j'ai envie de dire d'abord, il y a un premier sujet, c'est que c'est bizarre que ça soit la loi qui crée la charte. Je croyais que c'était l'inverse, c'était plutôt la charte qui créait en fait la loi. Ça, c'est
bon,
un premier
charte,
sujet.
La charte, c'est pas de sanctions et pas d'obligations, en clair, une charte, c'est ça.
L'idée, c'est évidemment qu'on s'embarque vers ce fameux troisième statut en permettant à la plateforme de payer des cotisations et donc des protections sociales à leurs travailleurs. Mais on ne peut pas cumuler la pire des façons, c'est-à-dire de rendre captifs des gens à la fois économiquement et à la fois socialement. Je pense que c'est ça, la perversité maximum. Et donc, moi, je reste persuadé qu'il faut que ces plateformes payent dignement les gens qui travaillent pour elles. Et en les payant dignement, c'est leur donner la possibilité qu'ils acquittent des charges sociales décentes.
Et que leurs clients payent
un petit peu plus s'il
c'est
le
ce
faut.
Que, c'est ce que vous préconisez.
Oui, mais enfin, attendez, si jamais vous payez quelques centimes en plus sur la course de votre cab ou sur votre livraison, vous le verrez même pas passer.
Allez, dernière
question.
Et ça
permettra d'acquitter les cotisations. Et le tout, c'est que on puisse justement donner ces protections.
1,2 million d'auto-entrepreneurs aujourd'hui, on peut aller plus loin, à votre avis ?
Moi, je suis convaincu qu'il y en aura 2,5 millions si jamais nous leur offrons la protection sociale dont ils ont besoin, qu'ils réclament, qui est légitime et qu'il faut créer en Europe.
Et financer.
Muriel Pénicaud veut le portage des droits sociaux. Je lui dis chiche, on y va, il faut y aller.
François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Merci d'avoir été sur
Merci.
France Inter. Ma vie au boulot, Sandrine Foulon. Un employeur peut-il sanctionner un salarié à cause des propos que ce salarié tient sur les réseaux sociaux ? Ça, c'est la question que Nadia vous pose. Nadia, elle s'inquiète des méthodes parfois expéditives des entreprises.
Nadia, vous faites référence dans votre courrier à ces 4 salariés d'Amazon qui ont été licenciés. Alors, non pas parce qu'ils soutenaient le mouvement des Gilets jaunes, mais parce qu'ils ont appelé sur Facebook au blocage d'entrepôts. L'entreprise a considéré que c'était un manquement grave à leur obligation de loyauté vis-à-vis d'Amazon. On verra ce que les juges diront. Il y aura sans doute une bataille autour du terme blocage. Si ça signifie inciter ses collègues à faire grève pour bloquer un entrepôt, personne ne peut être licencié pour appel à la grève. Et puis, sur le principe, Nadia, un employeur doit respecter la liberté d'expression et la vie privée des salariés. Il ne peut pas sanctionner quelqu'un qui poste des messages privés dans un réseau social fermé. Mais voilà, aujourd'hui, on marche sur des œufs. Quel est le degré d'ouverture d'un réseau social ? L'un des salariés d'Amazon a posté ses messages sur un groupe appelé « Nous, Gilets jaunes », suivi par près de 30 000 personnes.
Ah oui.
Est-ce du public, du privé ? En septembre, la Cour de cassation a annulé le licenciement d'une salariée qui dénigrait sa chef sur un groupe Facebook intitulé « Extermination des directrices chieuses ». Mais ce groupe n'était consulté que par 14 personnes. Les magistrats ont estimé qu'il s'agissait là d'une conversation privée.
Donc Sandrine, poster des messages sur Twitter, est-ce que c'est potentiellement plus dangereux ?
Absolument. Twitter est l'un des réseaux sociaux les plus ouverts, ça relève du domaine public. Les personnes qui ont été harcelées par la Ligue du LOL ont témoigné des tombereaux d'horreur relayés par des internautes en meute. Dans ces conditions, l'employeur a plus de latitude pour faire usage de son pouvoir disciplinaire, même s'il faut s'assurer de l'identité de l'auteur du tweet. Sur Twitter, la preuve est plus facile à obtenir et plus facilement recevable. Pas besoin d'aller faire des copies d'écran d'un réseau auquel on n'a pas accès. Autre point aggravant pour les journalistes qui ont participé à la Ligue du LOL, les journaux comme les associations ou les partis politiques font partie de ce qu'on appelle les entreprises de tendance. Si vous tenez des propos qui sont contraires à la ligne ou aux valeurs de votre employeur, il est totalement en droit de vous virer. Mais quand bien même des cyber-harceleurs vendraient des petits pois, c'est au juge d'apprécier si leurs activités privées ne rejaillissent pas sur le bon fonctionnement de l'entreprise. La sanction peut tomber. Il est devenu illusoire de croire que sphères privées et publiques sont parfaitement étanches.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.